Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, les entrepreneurs de Bénin Nord qui vous croient en un meilleur avenir malgré les défis sécuritaires. Ils l'ont fait savoir vendredi lors du lancement de la première édition des Chic Expo, une exposition d'œuvres locales. Lancée officiellement par le maire de la ville, cette initiative vise à mettre en lumière la résilience et les savoir-faire des entrepreneurs de Bénin. La population civile des deux chefferies du territoire d'Ouvira a vécu des violences extrêmes au cours des trois derniers mois de l'année en cours. Selon le comité exécutif pour la paix et la cohabitation communautaire dans les territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga Itombwe, ces violences proviennent de groupes armés de tous bords. Notre invitée, c'est Madame Annie Kamwanya Manassé. Elle est présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme au Maniema. Vu l'ampleur des décès maternels et infantiles dans cette province, cette société sensibilise la communauté, surtout les femmes, sur les signes des dangers de la grossesse et l'importance des consultations prénatales chez les femmes enceintes. Encore une fois, bonjour à tous. Nous croyons en un futur meilleur, peu importe les défis sécuritaires que nous traversons dans la ville, il y a de l'espoir. C'est le principal message lancé vendredi par les organisateurs de la première édition des Chic Expo, une exposition d'œuvres locales. Lancée officiellement par le maire de la ville, cette initiative vise à mettre en lumière la résilience et le savoir-faire des entrepreneurs de Bénin. Marc Marofimbo nous en dit plus.
À travers des stands de création et innovation, une cinquantaine d'entrepreneurs de Bénin ont voulu montrer qu'il est encore possible de croire au développement local malgré un contexte sécuritaire difficile. Parmi eux, Asula Bachida, actif dans le domaine de l'habillement. Pour lui, Chic Expo est avant tout un message d'espoir adressé à la communauté et au monde entier.
C'est une manière aussi de transmettre l'espoir. Lorsque cette communauté voit dans ce genre d'événements, quand même des gens qui peuvent encore croire à un futur meilleur, c'est déjà une communication qui n'est pas à négliger. Il ne faudrait pas que toutes les situations, les difficultés que nous traversons, les contrariétés auxquelles nous faisons face dans cette vie, ne puisse nous laisser dans un état qui va donner une image des personnes qui ne peuvent plus croire à une vie meilleure, mais plutôt des gens qui montrent à la face du monde que c'est encore possible. Nous continuons d'y croire. C'est pas que parce que nous subissons tout ce qui est massacre, tout ce qui est difficulté, que nous allons nous les laisser. Nous continuerons toujours à montrer au monde que nous ne nous découragerons jamais.
À travers Chic Expo, les entrepreneurs de Beni attendent aussi de montrer que, malgré les défis sécuritaires, la ville reste debout, créative et tournée vers l'avenir. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À l'ouest du pays, précisément dans la province du Kwilu, la célébration de la fête du travail ce 1er mai 2026 a été marquée par un meeting solennel à la tribune du camp Onatra. Devant une foule de travailleurs, Placide Mambo, président de l'intersyndicale, a ouvert le bal en appelant fermement les autorités provinciales à honorer leurs engagements sociaux. Il est au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire de Bandundouville.
Employeurs, je vous invite à toujours prêter une oreille attentive, desiderata de vos travailleurs et de collaborer étroitement avec les syndicats pour l'encadrement digne de ceux-ci, conformément à la législation en vigueur, pour répondre positivement au thème mondial et national. Quant aux travailleurs, je vous demande de mettre à l'avant-plan la conscience professionnelle et l'assiduité de vous acquitter de vos obligations et devoirs professionnels dans le respect et la dignité.
En réponse, le gouverneur Philippe Akamituna a prôné l'apaisement. Il a invité les partenaires sociaux à une collaboration étroite avec son exécutif, affirmant que seule une synergie durable permettra de relever les défis du monde du travail dans la province. Des actes de violence contre la population civile ont été commis dans deux chefferies du territoire d'Ouvira au cours de trois derniers mois de l'année en cours. Les entités concernées sont les chefferies des Bafouliru et de la plaine de la Rosésie. Le comité exécutif pour la paix et la cohabitation communautaire dans les territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga Itombwe indexe les groupes armés de tous bords. Ahadi Biamoussou Nathan décrit la situation dramatique de décembre 2025 en avril 2026 au micro de Jean Kassami.
Au nom du CPCC, nous déplorons nos profondeurs inquiétudes face aux multiplications des actes de violence ciblés, des infrastructures médicales, éducatives et d'habitation des civils dans les villages de Kassambura, Biriba, Mikamba et Kabunambo, entre la chefferie de Bafouliru et la chefferie pleine de la Rosésie. Ces actes constituent non seulement des atteintes graves aux droits fondamentaux, dont les droits humains à la vie, mais aussi des violations du droit international. Entre le 9 décembre 2025 jusqu'à maintenant, plusieurs cas de violence par les acteurs armés ont été signalés, marquant une nouvelle escalade de violence contre les civils et surtout aux femmes. En date du 9 mars 2026, il y a eu les explosions de bombes à Kassambura, dans le groupement de Runingu, qui ont fait au moins une perte de 9 personnes signalées et une quinzaine de blessés. Il y a eu même une hausse inquiétante des camps d'enlèvement des civils.
Des sources médicales dans la région affirment que quelques institutions sanitaires ont fermé leurs portes suite aux actes de sabotage perpétrés par des groupes armés. Situation similaire en Ituri. La coordination de la société civile alerte sur une recrudescence de l'insécurité, notamment dans les territoires de Djougou où les groupes armés de la CODECO ont repris les violences, mais aussi l'extension de l'insécurité dans les territoires d'Arou. Cette structure fait état des dizaines de morts et d'importants dégâts enregistrés cette semaine dans la chefferie de Mambisa, outre les attaques récurrentes de la milice CRP et ADF dans la province. Lors d'un point de presse tenu vendredi à Bounia, son coordonnateur appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces violences et éviter un retour au massacre du passé. Il demande également à la justice d'ouvrir des enquêtes afin que les auteurs de ces exactions répondent de leurs actes. Dieudonné Lossa est au micro de Laetitia Kiavuno.
L'insécurité est en train de s'étendre sur l'ensemble des provinces de l'Ituri. Le mardi, il y a eu l'attaque de CRP contre la position des FADC à Pimbo. Le même jour, les miliciens de Codeco, qui depuis un bon moment ont cessé de tuer la population, se sont encore de nouveau présentés dans le village Bassa où plusieurs personnes seraient massacrées. Il n'y a pas longtemps qu'on a déploré plusieurs dizaines de personnes massacrées par ADF et ses supplétifs à Mambasa. Et voilà, ça recommence avec Codeco à Djougou et à Arou. Déjà, cette criminalité est en train de faire peur. Nous voulons inviter les autorités provinciales du gouvernement central sur cette situation parce que nous ne voulons pas retourner dans les cycles de violence. Nous n'avons plus besoin de revenir en arrière. Nous voulons également interpeller l'auditorat ou donc service de justice pour aller enquêter sur ces massacres.
De son côté, le gouvernement provincial dit que les opérations sont en cours pour restaurer l'autorité de l'État dans ces entités. Mais nous n'avons pas encore la réaction de la justice à ce sujet. Dans le même registre à Kinshasa, l'insécurité atteint des niveaux préoccupants. Dans le quartier Chibanda, situé dans la commune de Mongafula, les habitants vivent dans une grande détresse face à la montée de la criminalité. À Nzengi Kojelos, une localité de ce quartier, la peur est permanente. Depuis plus de 3 ans, ces zones sont plongées dans l'obscurité à la suite de la destruction d'une cabine de distribution électrique, ce qui accentue la vulnérabilité des habitants. Reportage signé Jean-Marie Kanaimba.
Il ne se passe pas un jour sans que des cas d'insécurité ne soient signalés dans les quartiers Nzingi et ses environs. Isolés du reste de la ville en raison des routes impraticables, les habitants vivent dans une grande précarité. Face à cette réalité, ils interpellent les autorités compétentes afin de renforcer la sécurité dans cette partie de la capitale.
Nous sommes au quartier Tibanda, précisément en Nzingi. La police qui est censée nous protéger travaille en complicité avec les criminels pour ravir nos objets, notamment les motos et plusieurs autres biens que les les autorités nous viennent en aide. Dans le passé, nous n'assistons pas à ce genre de phénomène. Cela fait déjà plus d'une année que nous vivons sans eau, sans courant et sans route. Raison même de l'insécurité.
François Moukoka, président des notables locaux, déplore l'abandon dont sont victimes les habitants et souligne l'urgence d'une intervention des autorités.
Je suis le président des notables de la localité Nzengi au quartier Tshibanda, appelé communément Kojelos. Le quartier est enclavé. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous sommes abandonnés.
Pour ces notables, le rétablissement de l'électricité, l'accès à l'eau potable et la réhabilitation de routes locales constituent des réponses essentielles à cette crise.
Restons dans la capitale. En Célé, dans le quartier Sikotra Lokali et Muntele, les nuits ne riment plus avec repos, mais avec vigilance. Face à une insécurité grandissante, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, les habitants ont décidé de veiller, de siffler et de faire du bruit pour dissuader les criminels. Une mobilisation nocturne qui traduit un ras-le-bol général et un cri d'alarme lancé aux autorités. Le point avec Christian Makasinga.
Sifflets, clochettes, marmites, ici, la nuit est tout sauf silencieuse. Les habitants occupent le rue, déterminés à se faire entendre. Lassés, ces riverains disent avoir tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, sans réponse concrète. L'un d'eux...
Nous avons décidé de passer une nuit dehors et de siffler et de faire beaucoup de bruit parce que nous avons constaté que notre cri d'alarme auprès des autorités n'a pas été entendu.
Face à cette situation préoccupante et à la montée de la tension, le bourgmestre de la commune de Nzélé assure que des mesures ont déjà été prises pour rétablir la sécurité.
Oui, il y a eu certains échauffements entre les habitants du quartier Sikota Lokali ainsi les sinistrés Pakadjuma. Maintenant, on a déjà pris des dispositions sécuritaires et ce travail, aujourd'hui, je pourrais dire, à 60% étant déjà des données de fruits, il est question peut-être de patienter un peu et avec le temps, tout ça va prendre fin. La population, j'ai beaucoup plus apprécié leur système d'être beaucoup plus éveillé,
entre sentiment d'abandon et promesse d'intervention, la situation reste tendue en Célé. Si les autorités parlent d'un début de maîtrise sur le terrain, les habitants, eux, maintiennent la pression. Leur message est clair, sans résultat concret, la mobilisation nocturne pourrait se poursuivre.
Au Nord Kivu, pour clore ce chapitre d'insécurité, le banditisme urbain prend de l'ampleur dans la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, situé à environ 30 km de la ville de Beni. En l'espace d'une semaine, au moins 12 cas de vol, dont certains à main armée, ont été enregistrés dans différents quartiers avec des pertes d'argent et de nombreux biens matériels. Une situation qui inquiète les autorités locales et la population. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Dans un rapport transmis au bourgmestre de la commune rurale d'Oicha, les chefs de quartier font état d'une situation sécuritaire jugée préoccupante. Ils évoquent au moins 12 cas de vol, dont certains à main armée enregistrés en l'espace d'une semaine. Les quartiers les plus touchés sont notamment Pakanza, Malaki, Mbimbi, Bakayiku et Masosi, où des malfrats ont emporté des biens dans plusieurs habitations. Le montant des pertes est estimé à au moins 2 000 $ américains. À Malaki, un dispensaire figure parmi les cibles des cambrioleurs. Plusieurs biens y ont été emportés. D'autres cas similaires ont été signalés dans des maisons d'habitation et des commerces. Face à cette recrudescence du banditisme, les chefs des quartiers appellent à un renforcement des mesures de sécurité en fait de protéger la population et ses biens. De son côté, les bourgmestres de la commune rurale d'Oicha appellent la population à collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à cette insécurité. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
La recrudescence de l'insécurité à Kinshasa préoccupe vivement les partis Alliance pour la Nouvelle Classe Libérale, ANCL. Lors d'une déclaration faite ce samedi devant la presse, son président a appelé le gouvernement congolais à améliorer la gouvernance sécuritaire afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Sur un autre chapitre, Jules Bavon Mwamba a plaidé pour une bonne gestion des recettes publiques pour stabiliser l'économie nationale, financer les développements et favoriser la création d'emplois à travers le pays. Ces propos ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Personne ne peut accepter l'insécurité. De ce côté-là, il y a beaucoup à faire. C'est tout comme encore l'insalubrité. Il y a beaucoup à faire. Donc, nous pensons que ça ne demande pas le maquillage. Le VPM de l'intérieur doit répondre à sa gouvernance sur l'insécurité. Chaque ministère regorge dans son domaine des richesses. Et pour la plupart des richesses ne sont pas canalisées vers les trésors publics. La classe politique héritée de prédécesseurs du chef de l'État brille dans la programmation des dépenses. Et nous pensons que l'ANCL va faire autrement, va redonner à augmenter le PIB de la nation en canalisant tout ce qu'il y a comme recette vers le trésor public et aussi en créant plus d'emplois pour absorber le chômage.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a donné une interview de plus de 2 heures le samedi 2 mai au soir face à la presse nationale. Le chef de l'État était interrogé par 3 journalistes, l'un issu de la RTS, la télévision publique, les 2 autres de Wolf TV et TFM, des chaînes privées. L'échange a été l'occasion de faire un point sur la situation économique du pays, mais aussi d'assumer ses points de divergence avec les PASTEF au pouvoir, dirigés par le Premier ministre Ousmane Sonko.
L'invité.
Notre invité, c'est Madame Annie Kamwanya Manassé. Elle est présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme, SCOSAF Maniema. Vu l'ampleur des décès maternels et infantiles dans cette province, cette société sensibilise la communauté, surtout les femmes, sur les signes des dangers de la grossesse et l'importance des consultations prénatales chez les femmes enceintes. Kamwanya Manassé Annie s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Annie Kamwanya Manassé, bonjour.
Bonjour, Madame la journaliste.
Qu'est-ce qui justifie cette sensibilisation que vous intensifiez avec différentes couches de population dans la ville de Kindu?
Ce qui justifie les sensibilisations que nous sommes en train de faire avec les différentes couches, c'est vu l'ampleur du taux de décès maternel et infantile dans la province de Maniema.
Parlant de taux, les statistiques démontrent que nous sommes à combien?
Par rapport aux statistiques, du 10 janvier jusqu'au 30 avril, nous sommes à environ 150 cas de décès maternel et infantile déclarés.
Qu'est-ce qui justifie ce taux de décès?
Ce qui justifie le taux de décès maternel, nous avons trouvé qu'il y a de la négligence chez les femmes enceintes pour fréquenter les structures appropriées afin qu'elles puissent accoucher dans de bonnes conditions. Il y a aussi les retards de prise de décision. Alors, nous, en tant que sages-femmes, nous avons jugé bon de sensibiliser la population et leur montrant les signes des dangers de la grossesse. Parce que nous avons trouvé qu'il y a ceux-là qui ignorent et il y a ceux-là aussi qui ne connaissent même pas et il y a aussi ceux-là qui négligent. Alors, nous avons jugé bon de leur sensibiliser sur les signes des danger de la grossesse.
Parlez-nous de ces signes de danger, du message que vous donnez à toutes les femmes.
Nous avons parlé de l'hémorragie génitale, c'est-à-dire quand la femme a une grossesse et elle est en train de saigner et ne doit pas rester à la maison et doit se diriger à l'hôpital. Il y a aussi les pertes des os par voie vaginale, il y a des douleurs lombo-hypogastriques, il y a beaucoup de femmes quand elles voient les os qui commencent à couler, négligent et n'attendent que des douleurs pour aller à l'hôpital. Quand elle a des céphalées intenses, la femme enceinte quand elle a des vertiges, elle ne peut pas gérer ses vertiges à la maison. Quand elle a la fièvre, quand elle a des œdèmes des membres inférieurs, elle ne doit pas confondre avec ça pour dire que non, c'est un gros bébé ou bien ce sont des jumeaux. C'est déjà un signe de danger. Quand elle a des bouffissures de la face, elle se réveille seulement le matin comme ça, elle voit toute la figure est gonflée, elle ne doit pas rester à la maison. Et quand il y a diminution ou accélération ou absence de mouvements fœtaux actifs, elle se réveille, elle voit l'enfant bouge peu ou bien l'enfant bouge beaucoup ou il y a absence de mouvements de l'enfant dans son sein et doit aller à l'hôpital car c'est un signe de danger pour sa grossesse. Et quand la femme est en train de convulser, nous avons parlé aussi, montré, quand la femme est en train de vomir à tout moment, elle ne doit pas rester à la maison, elle doit aller à l'hôpital.
Est-ce que ces enseignements, vous les donnez aussi pendant les consultations prénatales?
Oui, madame la journaliste, ces enseignements, nous les donnons. C'est ce que nous appelons éducation sanitaire. Nous ne pouvons pas faire ou bien terminer une séance de consultation prénatale sans toutefois éduquer les femmes. Et c'est pendant cette éducation que nous montrons, mais nous expliquons même aux femmes les signes des dangers de la grossesse, l'importance de la vaccination pendant la grossesse. Et c'est pendant ces séances et ces éducations que nous interdisons même aux femmes de continuer à consommer les kaolins. Parce que les kaolins, quand une femme consomme les kaolins, elle va développer les vers intestinaux. Et les vers intestinaux, leur rôle, c'est quoi? C'est consommer le sang. Et quand ça consomme le sang, ça risque d'arriver même au niveau de la rate, là où il y a la fabrication des globules rouges. Et quand il y a maintenant diminution de la production des globules rouges comme conséquence, la femme va développer l'anémie. Et quand elle a l'anémie, comme conséquence, elle risque de mourir, par exemple. Elle manque le sang et il n'y a pas le sang dans les banques de sang. Comme conséquence, la femme risque de perdre la vie parce qu'il n'y a pas le sang. Alors, pour prévenir, les femmes ne doivent plus continuer à consommer les kaolins pendant la grossesse.
Est-ce que les femmes au Maniema ou bien dans la ville de Kindu ont l'habitude de suivre les CPN?
C'est ça le problème qui nous avait poussé à faire cette sensibilisation, parce que nous avons trouvé, surtout au premier trimestre, pendant les 16e semaine de la grossesse, beaucoup de femmes ne fréquentent pas les consultations prénatales pendant le premier trimestre. Et c'est ça même le motif qui nous avait poussé aussi à associer aussi l'importance des consultations prénatales, parce que nous avons trouvé il y a de la négligence. Beaucoup de femmes vont aux consultations prénatales quand la grossesse est presque à terme.
Celles qui négligent les CPN et n'attendent que les douleurs pour se rendre à l'hôpital, une mauvaise pratique, qu'est-ce que vous conseillez?
Non, nous conseillons aux femmes d'enlever ces mauvaises idées, car ce sont des ignorances seulement qui leur poussent à parler ainsi. À l'hôpital, et par rapport aux formations que nous donnons aussi aux sages-femmes, les éducations sanitaires pendant les consultations prénatales sont obligatoires. Parce que c'est pendant les consultations prénatales que les femmes apprennent aussi quelques informations pour leur grossesse et comment elles vont se comporter avec les grossesses et comment elles vont arriver jusqu'à leur accouchement.
Madame Annie Kamanyamanase, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
C'était donc notre invitée Annie Kamanyamanase, présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme au Maniema, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mis en onde des mains des maîtres par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Place à présent aux informations sportives avec Jean Gandou Kabongo qui vient de me rejoindre à présent dans ses studios. Bonjour Jean.